Chapitre 37. La lampe à huile projette des petits losanges de lumière qui dansent sur les murs en béton et sur le plastique au sol. L'air est saturé d'odeurs d'opium, d'égout et de vomi. Laila ferme le bocal avec un couvercle et le range dans le frigo. Juna s'approche de l'homme sur le canapé-lit, regarde son visage relâché et lui donne un léger coup de coude sur l'épaule. « Vas-y maintenant. Quoi ?» bafouille-t-il. « Tu dois partir maintenant. » dit Juna en lui donnant un coup plus fort. « Va te faire foutre » grommelle-t-il. Il cligne des yeux avec lassitude. Juna saisit son avant-bras d'une main et son cou de l'autre pour le mettre debout. « Putain, tu fais quoi ?» Ses jambes sont sur le point de se dérober, mais Juna le retient. « Je suis flic, mais cette fois je te fous la paix si tu te barres maintenant. » Juna traîne l'homme chancelant jusqu'à la sortie. Celui-ci se tient le ventre et crache par terre. « J'ai besoin de me reposer un peu !» gémit-il. Juna ouvre la porte et le pousse dehors. L'homme trébuche sur le sac poubelle, puis va s'asseoir lourdement sur les marches. « Merde, qu'est-ce qui te prend ?» Juna décroche sa veste de lapataire, la lui jette au visage, referme la porte et va s'asseoir sur le canapé-lit. Laila ôte ses lunettes, se tourne vers lui et le regarde avec calme. « Alors, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. »«
Je suis désolé, mais j'ai besoin de réfléchir. J'ai trop de choses dans la tête. »
« Réfléchir ? Tu penses que l'opium va t'aider à réfléchir ?» Il attrape une serviette par terre et essuie le vomi sur la bâche. Puis il retourne le coussin en velours humide et s'allonge. Elle saisit le seau posé à côté du lit, va le vider dans les toilettes, puis le remet à sa place.
« T'as trop de travail, » dit-elle.
« Je sais plus. Je suis plus suffisamment... Je sais plus rien. »
« T'as personne qui peut te réconforter ?»
Comme il ne répond pas, elle s'éloigne vers le frigo, en sort un petit paquet, avance sa chaise de bureau au bord du canapé et s'assied. À la lumière tremblante de la lampe à huile, elle déplie le plastique autour de l'opium sombre et en détache un morceau.
« T'es en train de sombrer ?»
lui demande Laila en faisant rouler une boulette collante entre son pouce et son index.
« Je vois plutôt ça comme un sablier. »
« C'est bien, mais seulement si t'arrives à le retourner. »
Elle pique la boule avec une aiguille et la place au-dessus de la lampe à huile. Dès qu'elle devient molle, elle la presse dans le foyer de la pipe. Après avoir fixé le tuyau en racine de bouleau à la tête de la pipe, Laila se penche vers lui et la lui tend.
« Tu te peins les ongles maintenant ?»
demande-t-elle. L'opium se met à crépiter lorsqu'il le chauffe. Juna aspire les vapeurs brûlantes et la pipe émet un bruit de bulle.
Le plaisir est si immédiat et si enveloppant qu'il en a les larmes aux yeux.
Son corps se détend. Le visage sévère de Laila devient beau. Et il sait que le conflit avec Valeria va être résolu.
Une volute de fumée translucide danse agréablement jusqu'au béton du plafond. Il place à nouveau la tête de la pipe au-dessus de la lampe, remplit ses poumons et sourit. Laila l'observe. Il repense aux yeux de Valeria dans le restaurant, aspire les dernières vapeurs sucrées, ferme les yeux et appuie sa tête contre l'oreiller. Valeria, avec son bijou fabriqué par l'un de ses fils, son pendentif en argent, qu'elle tripote un peu, avant de le laisser retomber entre ses seins. Juna remarque que Laila lui enlève la pipe des mains et la pose sur la table de chevet.
puis elle lui prépare une nouvelle boulette. Il ne comprend d'abord pas d'où lui vient le nom de Yakov Fauster. Mais il revoit Saga répéter de façon obsessionnelle les noms des trois tueurs en série. Avant que ce tueur en série allemand ne soit arrêté, et alors qu'il était encore traqué, les journaux l'appelaient « l'orfèvre de Berlin ». Sa première victime connue avait été retrouvée les yeux brûlés par de l'argent en fusion sur une voie ferrée à l'extérieur de la ville. Juna n'a pas la force de se lever. Mais il pense qu'il devrait rapidement enquêter sur un éventuel lien entre l'orfèvre et les figurines en étain. Laila maintient la nouvelle boule d'opium au-dessus de la lampe. « Attends, » murmure-t-il. Elle lui tend la pipe. Et il place le bec entre ses lèvres et aspire les vapeurs. Alors qu'une vague de bonheur inonde son corps, il se redresse et regarde la pièce sombre. Il plisse les yeux. Il se dit que les lueurs éparses de la lampe à huile ressemblent à une multitude de papillons sœurs dorés. Il ne sait pas pourquoi il doit partir, mais il tend la pipe à Laila et s'extirpe du canapé en titubant. La bâche en plastique au sol brille comme de l'eau. Il se dirige vers la porte, au milieu d'une nuée de papillons voltants, les balaie avec sa main, vacille sur le côté et renverse une planche à repasser. Il se penche et attrape un châle dans la boîte des objets oubliés, conscient que le froid va bientôt se répandre dans son corps par le biais de son système sanguin. Laila ouvre la porte et le laisse sortir dans la cage d'escalier. Juna s'accroche à la rampe. Il doit s'arrêter un instant pour fermer les yeux, avant d'attaquer les dernières marches et de sortir dans l'air frais du soir. Il tient le châle rose brodé de fils d'or dans sa main et ne remarque pas que celui-ci traîne sur le sol derrière lui. Il suit le sentier, tandis que le sol tourne autour de lui comme un manège. Les gratte-ciels défilent sans qu'il ne réussisse à les fixer de son regard. Les effets de l'opiacé se font toujours sentir. La fatigue est presque insupportable et il peine à progresser sur la place pavée. Il longe ensuite un bâtiment bas abritant une épicerie et une bijouterie. Seule la pensée des figurines en étain et de l'orfèvre de Berlin le fait avancer. Des mouettes crient devant la bouche de métro. Il s'arrête, s'appuie contre une poubelle et se dit qu'il devrait s'adosser au mur pour se reposer un peu. À pas lents, il continue pourtant d'avancer. S'arrête devant un McDo, s'allonge sur un banc, se recouvre le torse avec l'écharpe et ferme les yeux. Dans son rêve, Valeria et lui dresse une table d'été dans son jardin avec de la porcelaine fine, des fleurs de prairie et des verres à schnapps. Il est réveillé par des voix et des rires, mais n'a pas la force d'ouvrir les yeux. Quelqu'un lui arrache le châle en disant qu'il est trop sexy. Regardez ses ongles. Il y a un enfant qui a été agressé par un de ces gros dégueulasses la semaine dernière, du côté de l'école de Vellingby. Eh oh, t'es réveillé? Tu veux sucer une bite? Il sent que l'un des garçons presse la semelle de sa basket contre son visage. « Rentre chez toi, vieille tarlouse! Putain, rentre chez toi !» Ses cuisses lui font mal, et il ouvre les yeux. Il voit un jeune garçon avec une batte de baseball dans les mains, mais il est trop fatigué pour se lever. Un autre s'approche et lui verse de la bière sur le visage. Il se redresse, voit le garçon à la batte de baseball s'avancer vers lui, pense qu'il devrait se protéger avec son avant-bras, mais n'a pas le temps de faire quoi que ce soit avant de recevoir un grand coup sur la joue. Il s'écroule au sol devant le banc. Il reçoit ensuite des coups de pied et de poing, et entend finalement une femme crier qu'elle a appelé la police. Les garçons s'enfuient en riant. La femme aide Juna à se relever. Elle ne doit pas avoir plus de 20 ans. Elle a d'épais sourcils noirs et porte un bindi rouge sur le front.
« Vous voulez que j'appelle une ambulance ?»«
Merci, mais ça va. »
répond-il en essuyant le sang et la bière sur son visage.
« Vous êtes sûr ?»«
Oui. »«
Je les déteste. Ce sont des sales cons. »
dit-elle en lançant un regard en direction de l'église.